France Culture.
Il arrive souvent que dans un groupe d'amis, une sorte de spécialisation des tâches ait lieu en fonction du caractère ou des compétences de chacun. Il y a le fêtard, le sportif, l'organisé et ainsi de suite. Pour notre penseur de l'économie du jour, c'était simple. Il fut et est resté pour la postérité l'économiste de la bande avec une ambition très claire, placer sa pensée dans celle de Marx pour la renouveler souvent, la critiquer parfois et la diffuser surtout toujours. Rudolf Hilferding, né en 1877 et mort en 1941, a pris ainsi place au sein d'un cercle, d'un groupe d'intellectuels qui partagent cette mission dans la Vienne du début du XXe siècle, les austro-marxistes. Portés par un contexte d'effervescence intellectuelle mais aussi politique, ils décident de cesser de lire Marx comme un monument, comme une œuvre historique en soi, et de lui redonner un souffle nouveau en faisant le socle d'une science sociale à construire. Une spécificité nous est ainsi réservée à nous, Autrichiens. Nous avions et avons avant tout la tâche difficile de traduire l'idée de l'international nationalisme dans la réalité effective vivante. Dans le premier éditorial du journal Der Kampf, fondé en 1907, qui leur permet entre nombreux autres de diffuser leurs idées, le ton est donné. Or, au sein de ce groupe, les questions d'économie politique sont centrales dans les débats et les publications, et Rudolf Hilferding se retrouve au cœur de ce mouvement qui fait battre la Vienne rouge d'après 1918 avant d'être rattrapé par la montée du fascisme. Entre-temps, Hilferding aura eu le temps d'alerter parmi les premiers sur les dangers de la financiarisation de l'économie et de devenir également ministre des Finances en Allemagne en 1924 puis 1929. Arrêté puis assassiné par la Gestapo en 1941, Hilferding incarne un marxisme qui entendait se saisir du réel et proposer un véritable programme intellectuel juste avant que le monde ne bascule. C'est donc à cet économiste à la fois théoricien et homme politique que nous consacrons notre portrait de l'écho dans cette émission préparée par Paul Weinarter, programmée par Bruno Barada, mise en onde par Élise Le et réalisée par Françoise Le Floch. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 15h et avec nous pour dresser ce portrait de Rudolf Hilferding, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Numa Ducange. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à l'université de Rouen, vous êtes membre junior de l'Institut universitaire de France. Et vous êtes également le co-rédacteur en chef de la revue Austriaca et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, on peut en citer deux. On a notamment Les Marxismes, paru aux Presses universitaires de France cette année, dans la collection Que sais-je. Et puis un autre ouvrage paru chez Perrin en 2024, consacré à Jean Jaurès et intitulé Jean Jaurès. Également avec nous, Michel Kredke, vous êtes professeur émérite d'économie politique de l'université de Lancaster au Royaume-Uni et de l'université d'Amsterdam aux Pays-Bas. Et vous êtes donc avec nous à distance. Bonjour et bienvenue. Alors, de tous les héritiers de la pensée de Karl Marx, Rudolf Hilferding n'est peut-être pas le plus connu, c'est rien de le dire sans doute. Pourtant, il a joué un rôle majeur dans un courant qui ne l'était pas moins connu, on va dire l'austro-marxisme. Alors, Jean-Numa Ducange, est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue-là, du fait qu'on ait ce Rudolf Hilferding au sein d'un groupe plus large, d'une sociabilité intellectuelle plus large, on peut dire que Rudolf Hilferding a marqué quelque part l'histoire de la pensée économique?
Oui, Rudolf Hilferding a effectivement marqué l'histoire de la pensée économique. Il suffit de citer deux grands acteurs de l'époque pour s'en convaincre. Jean Jaurès, le socialiste français, et Lénine, le futur dirigeant du parti bolchevique, ont porté une grande attention à ses œuvres. Et pour comprendre pourquoi justement ces deux figures majeures, entre autres, ont porté une grande attention à Rudolf Hilferding, il faut rappeler une chose. Au tout début du XXe siècle, beaucoup de marxistes avait fait le pari que la révolution allait avoir lieu, que d'une certaine manière les choses allaient se régler elles-mêmes, le capitalisme se développait, le prolétariat était numériquement de plus en plus important, les partis ouvriers connaissent des résultats spectaculaires en termes électoraux, en termes militants, et donc on se dit, bon, la partie est presque gagnée. Sauf qu'évidemment, nous ne le savons pas posteriori, mais sur le moment, beaucoup se rendent compte que le capitalisme évolue, que sa forme industrielle, entre guillemets, classique, telle qu'elle s'est développée en Grande-Bretagne au XIXe siècle, évolue, qu'il n'y a pas eu de révolution sociale et politique comme prévu, bien qu'il y ait déjà des mesures sociales qui aient été prises par différents États, ce qui pose la question du rapport des marxistes à l'État. Bref, tout ça induit toute une série de questions. Et parmi ceux qui réfléchissent à ces questions, Il y a effectivement des Autrichiens. Alors rappelons que nous sommes dans un contexte particulier. L'Autriche est un petit pays en termes géographiques. À l'époque, c'est un immense empire. C'est l'Empire austro-hongrois qui existe depuis 1867. Vienne est une des grandes capitales industrielles du monde. Et à Vienne et dans les grandes villes industrielles de l'Empire autrichien, vous avez un parti social-démocrate puissant, implanté et qui a effectivement des particularités. D'abord parce qu'il faut traiter les particularités de l'Empire autrichien, de nombreuses nationalités, quelqu'un qui s'appelle Otto Bauer, qui va beaucoup réfléchir sur les questions, cette question-là. Et puis, il y a les questions plus économiques. Et effectivement, Rudolf Hilferding s'inscrit dans ce qu'un journaliste américain va appeler, de l'extérieur, en constatant, une école austro-marxiste, c'est-à-dire des marxistes autrichiens, qui prennent à bras le corps certaines nouvelles questions. Et parmi ces nouvelles questions, et vous avez justement la question de qu'est-ce que le capitalisme en 1900-1905, ressemble-t-il au capitalisme des années 1860? Il y a des traits communs, il y a des prolongements, mais pas seulement.
Et c'est autour de cette question cruciale que Hilferding, entre autres, et parmi ses autres collègues, les autres membres de la bande, si on peut le dire ainsi, c'est à cette question-là qu'ils vont se consacrer. Michel Kretke, pour commencer à avoir cette première approche, ce premier portrait à la fois biographique, mais aussi intellectuel de Rudolf Hilferding, on le comprend, il y a ce contexte politique très important que l'on vient d'évoquer, d'un point de vue économique, du point de vue de la théorie économique, dans quel domaine Hilferding faisait autorité en tant qu'économiste? Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il fut un pionnier d'un point de vue théorique?
Oui, il était un des membres de ce groupe, cette école des austro-marxistes, qui ont eu quelques idées en commun. En tout cas, ils étaient opposés à l'orthodoxie du marxisme de l'époque et aussi à ce qu'on appelait le révisionnisme. Selon leurs idées, c'était important de continuer la recherche de Marx et de Engels sur le capitalisme et d'étudier et d'analyser tout ce que Marx n'avait pas fait et tenir contact et réagir aux critiques du marxisme, des théories de Marx et d'Engels sur le niveau de leur temps. Alors ça, c'est un programme de repenser le marxisme et en particulier tous les phénomènes qui n'étaient pas ou seulement quelques petites parties étudiées par Marx. Il faut se... Qu'est-ce qui se passe ?
Mais je crois que je crois que la connexion est relativement fluctuante entre notre studio ici à Paris et vous qui êtes à distance. Je le rappelle, on va essayer de vous récupérer d'une façon ou d'une autre. Jean-Numa Ducange, on a un premier aperçu de ce contexte intellectuel très important. Pour bien mettre les choses au clair, et je reprends là les mots pour le coup de Michel Kretke dans un des articles qu'il a consacré à l'austromarxisme, il parle d'une école petite au regard du nombre de ses représentants, mais grande au regard des travaux qu'elle a produits. Je voudrais qu'on insiste sur ce terme d'école pour bien essayer de comprendre ce dont il s'agit. Est-ce qu'il s'agit effectivement d'une école et donc d'un mouvement plus intellectuel ou au contraire d'un groupe politique? Comment est-ce qu'il faut comprendre cet austro-marxisme?
Alors oui, c'est une école intellectuelle qui s'est construite pas à pas. Alors pour repérer cette école, on a plusieurs éléments. Le premier, le plus important peut-être, c'est la naissance d'une nouvelle revue en 1904 qui s'appelle les Marxstudien, donc les études sur Marx, qui sont justement préfacées par Max Adler, un austro-marxiste important, et Rudolf Hilferding, et qui présente un programme de recherche. Et donc cette revue va être publiée à plusieurs reprises, avec des contributions très spécifiques, économiques, philosophiques, etc. Et donc oui, c'est une école dans la mesure où, pour le dire très schématiquement, sur le plan de la philosophie, ils vont vouloir rapprocher Marx de Kant, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque, puisque certains voyaient le marxisme comme une philosophie qui surpassait tout ce qui existait auparavant. Là, par exemple, l'impératif catégorique, l'impératif moral kantien, quelque chose qui leur paraît important à concilier avec le marxisme. D'un point de vue politique, il y a la question des alliances. Alors, ce ne sont pas les seuls, les Autrichiens, à se poser la question, mais tout de même, on voit bien que le seul parti social-démocrate ne peut pas gouverner seul. Je rappelle, c'est un parti d'opposition à ce moment-là. D'un point de vue de l'analyse de l'Empire, il y a la question des nationalités. Faut-il donner des droits aux minorités? Ça va être une des grandes questions. Otto Bauer va publier La question des nationalités et la social-démocratie en 1907. Ça, c'est très important. Et Rudolf Hilferding va publier. Donc, il est d'abord en Autriche, en Hongrie, puis ensuite, il va en Allemagne pour une série de raisons. Mais il va commencer ce travail dans ce contexte autrichien-là. Hein, Vienne est à ce moment-là une grande capitale intellectuelle. Bon, on évoque souvent plutôt les romanciers, etc. Mais c'est aussi une école, beaucoup d'écoles intellectuelles. On parle beaucoup de cercles viennois, cercles autrichiens. Le plus célèbre, c'est le cercle philosophique entre deux guerres, le fameux Wiener Kreis, le cercle de Vienne avec Wittgenstein et d'autres, bien sûr. Mais il y a aussi une sorte de cercle austro-marxiste hein, qui se développe à ce moment-là autour de cette revue. Et il y a une deuxième revue qui est importante, que vous avez citée au début de l'émission, qui est Der Kampf, donc, qui est lancée en 1907, et qui, dès son éditorial, dit effectivement que nous, Autrichiens, hein, nous avons un rôle particulier à jouer sur un certain nombre de sujets dans ceci. Et sur le plan de l'économie, il faut savoir que Hilferding et quelques autres vont être les premiers à analyser un phénomène qui nous paraît tout à fait banal aujourd'hui, mais qui à l'époque est en développement. La montée en puissance du capital bancaire et des banques, évident, mais voilà, et donc de la finance, et donc de ce qu'on appelle la financiarisation du capital. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de socialistes, donc ceux qui ont un certain niveau intellectuel et théorique, vont être très marqués par ce qui va devenir donc le capital financier, l'ouvrage de Rudolf Hilferding en 1910, parce que c'est finalement la première fois, il faut bien le dire, avec une certaine stupeur, que l'on se rend compte que, bon, le marxisme c'est bien, ça a permis de développer des partis ouvriers, ça a permis d'analyser les contradictions du capitalisme, les inégalités sociales, mais le capitalisme évolue, ce n'est plus le même tout à fait. Et c'est là où effectivement, où ces austro-marxistes, alors que ce n'est pas du tout les plus connus, hein, si on pense à Rosa Luxembourg, mais les austro-marxistes sont les premiers à pointer un certain nombre de réalités. Juste pour terminer là-dessus, parfois on a dit peut-être un peu exagérément, mais ça donne bien une idée du sentiment à l'époque que Rudolf Hilferding avait publié le livre 4 du Capital, puisque Marx a publié le livre 1 de son vivant, puis 2 et 3, c'est Engels qui s'en est occupé. Parfois on a dit que Hilferding a fait le livre 4 pour dire qu'il continue le Capital, mais en reprenant toutes les questions de monnaie, de valeur, d'échanges commerciaux, de banques, pour le, entre guillemets, le réaménager en fonction de la situation actuelle.
On voit bien effectivement une forme de continuité très, très, très forte à travers cette idée. Jean-Numa Ducange, pour qu'on remette bien les choses dans leur contexte, Rudolf Hilferding, je le disais, est né en août 1877 à Vienne, soit 6 ans avant la mort de Karl Marx en mars 1883.
Ils ne sont pas connus du coup, effectivement.
ou alors, vraiment par des voies très, très détournées. Très, très concrètement, en fait, pour bien le comprendre, Rudolf Hilferding n'arrive pas dans un contexte où l'austro-marxisme est déjà florissant et n'attend que lui. Il contribue aussi à le fonder.
Non, il contribue lui-même à fonder une école. Vous avez donné la date de naissance, donc chacun déduira que ce n'est pas un vieux monsieur voilà. Lorsqu'il est dans cette école. Ce sont des jeunes. Le capital financier est l'œuvre d'un à peine trentenaire, si vous voulez, quelqu'un qui... C'est une équipe de jeunes, oui, il faut le dire, de jeunes socialistes qui trouvent que les débats actuels au sein du socialisme de l'époque sont insuffisants. Sont trop pauvres sur un certain nombre de sujets, parce que le grand débat, c'est évidemment la réforme, la révolution, la question de l'État. Il y a des incursions sur le domaine économique, sur la question des nationalités, mais il n'y a pas de prise en compte tant que cela de ces problématiques-là. Donc Hilferding, effectivement, avec Max Adler, Otto Bauer, moins connu mais assez connu à l'époque, Gustav Eckstein, tous ces gens prennent à bras le corps et effectivement, c'est une équipe de jeunes qui évolue dans ces cercles viennois. Il faut dire que Vienne est très prospère économiquement, intellectuellement à ce moment-là. C'est un grand lieu pour beaucoup, pour différentes choses en réalité. Et c'est dans ce contexte d'effervescence-là qu'ils fondent effectivement ce qu'on appellera l'austro-marxisme.
Un contexte d'effervescence que reconstitue également Stefan Zweig dans Le Monde d'hier.
Le cœur précieux de la cité était enfermé dans le ring, la rue aux pompeux édifices. Au centre, les vieux palais de la cour et de l'aristocratie racontaient toute une histoire conservée dans les pierres. Ici, chez les Lichnowsky, Beethoven avait joué du piano. Là, Haydn avait été l'hôte des Esterházy. Plus loin, dans la vieille université, avait retenti pour la première fois la création de Haydn. La Hofburg avait vu des générations d'empereurs. Schönbrunn avait abrité Napoléon. Dans le dôme de Saint-Étienne, les princes chrétiens alliés s'étaient agenouillés pour rendre grâce à Dieu de la délivrance de l'Europe, attaquée par les Turcs. L'université avait accueilli dans ses murs d'innombrables flambeaux de la science, et parmi tous les monuments anciens se dressait fièrement, fastueusement, avec ses avenues resplendissantes et l'étincellement des magasins, la nouvelle architecture. Mais l'antique n'était pas plus en désaccord avec la moderne que la pierre taillée avec la vierge nature. Il était délicieux de vivre ici, dans cette ville hospitalière, qui accueillait tout ce qui venait de l'étranger et se donnait généreusement. Il était plus naturel de jouir de la vie dans son air léger, ailé comme à Paris, de sérénité. Vienne était, on le sait, une ville jouisseuse. Mais quel est le sens de la culture, sinon d'extraire de la matière brute de l'existence, par les séductions flatteuses de l'art et de l'amour, ce qu'elle recèle de plus tendre et de plus subtil.
Un extrait du Monde d'hier de Stefan Zweig, lu par Tina Jung de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Jean-Numa Ducamp, j'en comprends, il y a ce contexte d'effervescence intellectuelle, il y a cette idée que ce sont de jeunes gens aussi qui s'emparent de certaines problématiques très politiques également. Je renouvelle tout de même la question, cette prise de conscience-là, cette volonté aussi de perpétuer l'œuvre de Marx et de s'affirmer dans une forme de continuité, ça aurait pu prendre lieu en Allemagne, ça aurait pu prendre lieu ailleurs. Pourquoi tout se concentre à Vienne? Pourquoi c'est à Vienne vraiment que l'effervescence est la plus poussée vis-à-vis de l'héritage de Marx?
Alors chacun aura compris qu'il y a une effervescence musicale
également.
Et littéraire dont Zweig, évidemment, celui qui a retranscrit le mieux a posteriori dans un contexte tragique ces années-là. Non, je pense que ce qu'il y a de si spécifique dans la partie autrichienne de l'Empire, il faut bien préciser, parce que l'Empire austro-hongrois, en plus, c'est deux choses qui évoluent. Alors, c'est sous la tutelle entre guillemets Habsbourg, mais bon, globalement, c'est deux univers quand même assez différents. C'est qu'il y a, comment dirais-je, une présence de différents facteurs qui expliquent cela. D'abord, la poussée de l'industrialisation dans la partie autrichienne de l'Empire est moins impressionnante que celle qui a eu lieu dans l'Allemagne des Hohenzollern, qui est juste à côté. Donc l'Autriche, si vous voulez, je schématise un peu, est un entre-deux de ce point de vue-là. En même temps, ils sont fatalement confrontés à des questions nouvelles, dont la plus spectaculaire, il faut insister, est la question des nationalités, bien sûr. L'autre élément qui contraste avec ce que l'on vient d'entendre, parce qu'on a l'aspect évidemment très romantique, très littéraire de Vienne, la ville de Vienne va être conquise par un certain Karl Lueger, qui va être maire de Vienne, de la droite nationaliste, antisémite, qui sera dont beaucoup de futurs nazis admireront l'œuvre. Donc il y a un contexte de forte hostilité aussi à l'égard de la social-démocratie autrichienne, tout particulièrement à l'égard des Juifs, et Hilferding lui-même est issu d'une famille juive. Et donc, ce niveau de tension politique, cet entre-deux industriel, cette présence des multiples nationalités, cette effervescence spécifique qu'il y a du côté de multiples cercles philosophiques et économiques, y compris des gens qui ne sont pas du tout de gauche socialiste, etc. Et bien, et en même temps, une ville qui est à la fois une capitale culturelle extraordinaire, mais dirigée par une droite nationaliste, bien tout ça provoque, en fait, à mon avis, une effervescence spécifique que l'on n'a pas, effectivement, dans le même ordre d'idées, que l'on n'a pas à Berlin ou dans d'autres grandes villes de l'Empire allemand, et que l'on n'a pas en France pour d'autres raisons, parce que le marxisme est évidemment un produit allemand, vu qu'il y a eu la guerre de 1870, et pour toute une série de raisons, il est plus compliqué de parler du marxisme, y compris pour des raisons linguistiques, en France à ce moment-là. Donc voilà, et puis il y a une école autrichienne aussi,
alors j'allais venir, voilà, justement.
Il y a d'autres écoles bien suivantes, et donc il y a aussi une volonté de répondre. Ce sont des jeunes gens, c'est important, ils veulent répondre à quelqu'un qui vous dira rien aujourd'hui, mais qui était important à l'époque, qui était Bumbaverk. Et donc, toute une série d'économistes comme ça, on sait qu'il y a une école autrichienne libérale, dont le plus célèbre ensuite sera Hayek, évidemment. Donc, il y a l'idée de, on va répondre à tous ces gens qui pensent qu'entre guillemets, le libéralisme, le libre-échange, c'est bien. Surtout que le libre-échange est en train, justement, d'être critiqué, y compris par des franges de la bourgeoisie. Ça qui les intrigue beaucoup aussi. Donc, c'était le lieu idéal à différents points de vue.
Mais donc, Jean-Numa Ducamp, on a aussi cette idée, au-delà d'affirmer une forme de spécificité propre à l'austromarxisme à ce moment-là, il y a aussi des débats internes, on va dire, au sein même de la ville de Vienne, où vous avez cité Bumbaverk, mais c'est une figure importante tout de même, et c'est effectivement une figure qui a été le professeur de tous ces jeunes gens auxquels ils sont confrontés directement. Or, Bumbaverk, c'est un des commentateurs les plus résolument critiques, on va dire, de la théorie de la valeur marxienne. Il est cofondateur avec Karl Menger de cette fameuse école autrichienne de la théorie de l'utilité marginale. Dans quelle mesure l'austromarxisme se construit aussi en opposition et en opposition vis-à-vis de l'école autrichienne?
On peut dire que les historiens raffolent de ce genre de choses, mais on peut dire qu'il y a une crise générationnelle aussi. C'est-à-dire que vous avez des jeunes gens qui ont été éduqués initialement dans un contexte universitaire mengerien, pourrait-on dire. Voilà, ça c'est très important. Et eux, comme ils se politisent par ailleurs, pour des raisons diverses, certains en réaction à l'antisémitisme, certains parce qu'ils ont lu Marx, tout simplement, et certains parce qu'effectivement, ils ont entendu parler en mal de la théorie de la valeur de Marx. Je rappelle, hein, la théorie de la valeur qui est quand même au cœur du livre 1 du Capital et de toute une série de textes de Marx. Si vous voulez, en fait, on pourrait dire qu'une partie des grands économistes autrichiens qui sont en fait très hostiles au marxisme, en fait, en prenant le temps de critiquer Marx et les marxistes, en fait, ont généré indirectement une école qui leur est favorable parce qu'effectivement, tous ces jeunes gens qui trouvent insupportable le capitalisme et qui trouvent aussi insupportable, en tout cas au bout d'un certain moment, les théories qui sont professées par leurs professeurs, c'est là où je dis une dimension générationnelle aussi qu'il n'y a pas négligée, eh bien, le tout dans un contexte où chacun aime bien, de façon mimétique, créer son propre cercle, parce qu'on est à Vienne, qu'on aime bien les grandes écoles de pensée, et qu'on aime bien dire que les futures grandes écoles de pensée, c'est nous, eh bien tout ça, effectivement, contribue à mettre cela en avance. Et ce qui est quand même important de rappeler, c'est que autant souvent dans l'histoire de la pensée économique, bon, de Menger à Hayek, on parle beaucoup de l'école autrichienne. D'ailleurs, quand on parle d'école autrichienne, on parle de ça, en fait. Et qu'en fait, quand même, une des autres grandes écoles de la pensée économique de l'époque, bah, c'est tout simplement l'austro-marxiste, qui est vraiment une théorie critique, moins connue, mais qui mérite d'être restituée, justement. Et Hilferding a été celui qui a été le plus remarqué, notamment à l'étranger, on le disait brièvement tout à l'heure.
Et notamment aussi parce que c'est le plus économiste potentiellement de la bande, même si Michel Kretke nous le dira, il y a d'autres économistes aussi dans cette bande des austro-marxistes. Une question un peu plus large, Jean-Numa Ducange, mais parce qu'on a du mal à s'en rendre compte aussi avec le décalage historique aussi, mais on est quand même dans un laps de temps relativement court par rapport à la mort de Marx, on est une vingtaine d'années après. Est-ce que c'est étonnant qu'un personnage comme Marx, et puis au vu de sa production théorique, soit et occupe une telle place dans les universités, alors que ce soit pour être critiqué, on le disait, par les professeurs ou encensé par les élèves? Est-ce qu'on enseigne véritablement Marx comme on l'enseigne aujourd'hui? Quelle place occupe-t-il d'un point de vue universitaire, en fait?
Non, bien sûr, on ne l'enseigne pas comme on l'enseignera ensuite. Bon, au XXe siècle, il y a ensuite eu, évidemment, le mouvement communiste qui a impulsé beaucoup de recherches et de renouveau autour de Marx. Non, ce qui marque à l'époque, c'est que Marx, et ce sera le cas y compris aussi en France, il y a quelque chose de souvent qu'on sous-estime, c'est que dès le départ, dès la publication du livre 1 du Capital, donc je rappelle en 1867 à Hambourg, et puis largement dans le monde germanophone ensuite, et dans quelques pays européens, dont surtout la France en fait, au départ, eh bien, vous avez des économistes libéraux, ou des économistes qu'on peut classer politiquement à droite, qui vont immédiatement repérer une chose importante, de dire, bon écoutez, ce que dit Marx politiquement, bon, on s'en fiche complètement, il est en train de délirer sur l'abolition des classes sociales, ça ne les intéresse pas. Mais on constate aussi que sa description du capitalisme britannique des années 1840-50-60 est quand même intéressante. Le Capital de Marx apporte des choses de manière descriptive pour eux qui leur semblent quand même mériter intérêt. Et donc, il y a une tradition critique libérale et entre guillemets de droite. Et cette tradition ira, encore une fois, commence aussi en France à ce moment-là. Et ça ira, si vous voulez, jusqu'à des personnalités comme Raymond Aron, hein, qui sera, pour parler de quelqu'un qui est très connu en France, qui est évidemment très hostile au communisme politique, très hostile même au marxisme comme idéologie, mais qui aura toujours la volonté, quand il fera ses cours au Collège de France, il dira, il faut lire Marx de près, y compris parce que les marxistes disent n'importe quoi. Et donc, il y a une sorte de, si j'ose dire, de tronc commun entre les marxistes critiques et une partie des libéraux, il y a de dire, il serait important, de reprendre le Capital de Marx, soit pour le critiquer, alors, radicalement, sur la voie de la valeur, pour ce qui concerne les économistes libéraux, soit pour ceux qui veulent continuer Marx, ils disent, on ne peut pas laisser Marx en l'état, il faut le renouveler sur tel ou tel point, le crédit, la banque, la monnaie, la fin ou non du capitalisme, l'État, très important. Est-ce que l'État, c'est que l'État de la bourgeoisie ou est-ce qu'on peut obtenir quelque chose dans ce cadre-là? C'est très important aussi. Il y a déjà des mesures sociales qui sont prises en Autriche à ce moment-là, donc c'est pas rien.
Mais en tout cas, ça te cause un retour aux sources.
Un retour aux sources, voilà. Ils ont en commun, c'est tout la floraison spectaculaire de tous ces écrits. Ça rend mélancolique, évidemment, année après année, tous ces jeunes gens qui publient des livres de 300, 400 pages en un temps record. On se dit comment font-ils? Mais ils sont complètement accaparés par ça, parce qu'ils se disent c'est incroyable ce que Marx a écrit. Mais il faut absolument regarder le capitalisme. capitalisme n'est plus le même. Ils voient la bourse de Vienne, ils voient bien que ça fonctionne plus tout à fait de la même manière. Il faut renouveler. Et donc, ils sont totalement pris intellectuellement et politiquement par tout cela.
On a donc cette ambition, cette mission de renouveler la pensée de Marx au vu des faits, en fait, tout simplement, et de la façon dont évolue le capitalisme. Alors, il y a cette ambition, cette idée, mais il faut encore qu'elle se concrétise. Il faut, pour faire corps, qu'il y ait des points d'achoppement, qu'il y ait une façon de faire groupe aussi pour ces austro-marxistes. Il faut là citer une figure très importante, Jean-Numa Ducange, c'est celle de Karl Kautsky qui a fédéré, on va dire, peut-être parce qu'il était un peu plus âgé que les autres, mais il fédère aussi à travers le journal Die Neue Zeit, que, dès 1902, on retrouve Ilferdin qui publie dans ce journal-là. Quel est ce personnage de Karl Kautsky? Pourquoi c'est lui qui arrive à impulser le mouvement au moins?
Alors, Karl Kautsky, donc, est né au milieu des années 1850. Donc, c'est effectivement déjà quelqu'un qui a une bonne quarantaine, voire cinquantaine d'années. Et il est surnommé le pape du marxisme. Tombe bien en ce moment.
Il y a
beaucoup
de débats,
voilà. Et pourquoi? Parce que il y a un point qui ne souffre pas de discussion à l'époque, et qui est le suivant. Il y a eu Marx, il y a eu Engels, bien sûr. Et celui qui et la continuité légitime, c'est Karl Kautsky. Il a connu Marx, mais surtout il a très bien connu Engels, dont il était le secrétaire, il a beaucoup travaillé avec lui, et c'est lui qui invente le terme même de marxisme, d'un point de vue positif, c'est-à-dire l'idée qu'il faut analyser le capitalisme pour le critiquer, et construire une organisation politique à côté qui correspond. Kautsky, c'est tout cela. Et effectivement, alors ce ne serait pas le cercle le plus connu viennois, mais en fait, il est d'origine autrichienne, et en plus il est né d'une famille austro-tchèque, donc évidemment, il se mariera à une juive, donc toutes ces questions de nationalité l'occupent beaucoup aussi. Il y a une sorte de cercle Kautsky, pourrait-on dire, qui est entre l'Allemagne et l'Autriche. Et Kautsky fait figure de mentor de la social-démocratie allemande, autrichienne, et c'est évidemment autour de lui que beaucoup de choses se font. Il faut bien avoir quelque chose en tête, puisque vous avez cité la revue Les Temps Nouveaux, donc Die Neue Zeit, c'est que Kautsky, c'est un petit peu un des... C'est un homme du 18e et du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il a la prétention, qui peut nous paraître aujourd'hui justement prétentieuse, mais d'englober tout le savoir et la politique. C'est-à-dire qu'il écrit sur tout, Kautsky. Il va vous écrire sur la réforme protestante du 16e siècle, sur le développement du capitalisme contemporain, sur la théorie de l'histoire, sur plein de choses. Et donc, ils sont tous pétris d'admiration pour cet homme qui parle de tout au nom du marxisme, et qui est, par certains aspects quand même assez dogmatique, il faut bien le dire, mais qui par contre a entre guillemets conscience un petit peu lui-même qu'il ne peut pas faire tout seul, que ça c'est une époque quand même un peu révolue, et donc il a beaucoup de gens autour de lui, beaucoup de gens qu'il admire en Europe, il est très traduit à ce moment-là, et effectivement, là aussi on parle d'une personne qui est tombée dans l'oubli, hein, Kautsky qui connaît aujourd'hui ce nom-là, mais qui à l'époque était absolument centrale. Vous disiez Kautsky à n'importe quel socialiste, y compris Jaurès et bien d'autres à ce moment-là, tout de suite on disait ah oui, quel grand théoricien, quel grand homme... Quel grand responsable, bien sûr.
Et donc un homme qui parvient à s'entourer. Alors,
tout à fait.
On l'a dit, vous venez de le dire, c'est une figure assez exceptionnelle dans le sens où il y a cette forme de pluridisciplinarité réunie dans un seul homme. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'inverse, les disciples qui vont suivre, en tout cas les plus jeunes, eux vont se spécialiser par discipline? On a dit Ilferdin, l'économie, Bauer plus les questions politiques dans le sens de nationalité aussi. Bon, il s'est aussi préoccupé d'économie. Est-ce qu'il y a une forme de distribution des tâches qui s'opère ainsi?
Oui, alors, c'est pas dit de manière aussi quand même explicite, bien qu'il l'affirme un petit peu, mais c'est vrai qu'on est en train d'abandonner d'une certaine manière l'idée que l'on va avoir un théoricien comme Marx, qui vous fait la théorie de l'histoire, la critique de l'économie politique, la philosophie allemande, son renouvellement, etc. Bon, voilà. Et là, chacun, d'une certaine manière, oui, ils suivent un peu l'histoire de l'université elle-même, qui se spécialise, c'est la naissance de la sociologie et son développement, l'économie politique et ses particularités. C'est l'époque où, de manière un peu schématique encore, mais où l'histoire se professionnalise et s'institutionnalise dans les grandes capitales européennes de manière pleine et entière. On n'est plus à l'époque de Michelet, où on pouvait encore avoir des grandes envolées lyriques sur l'histoire de France, sans mettre de notes de bas de page, pour schématiser. La note de bas de page est d'origine, entre guillemets, prussienne, hein, là aussi pour le dire vite, mais voilà. Donc tout ça, eux, ils ont conscience de ça, et comme ils sont jeunes et qu'ils ont évolué dans des cercles universitaires, oui, ils veulent en quelque sorte fonder une nouvelle science sociale, en fait, marxiste, mais qui tiendrait compte quand même de la séparation des savoirs, pourrait-on dire incontestablement. Même si, c'est une interprétation de ma part, mais on voit bien que tous ces gens sont déchirés, parce qu'ils renoncent, en fait, d'une certaine manière, à être la personne qui va avoir, entre guillemets, un avis sur tout, mais pas un avis juste pour commenter l'actualité, avoir une sorte de prétention théorique à un très haut niveau.
Michel Kretke, je crois qu'on a réussi à vous récupérer, que vous êtes de nouveau parmi nous. C'est intéressant, cette idée de spécialisation disciplinaire aussi parmi les membres de l'austro-marxisme. De ce point de vue-là, Hilferding est considéré comme l'économiste de la bande, je l'ai dit. Il n'est pour autant pas le seul, c'est important de le dire et de rendre à César ce qui appartient à César, en l'occurrence à Otto Bauer, qui a aussi beaucoup travaillé sur les questions d'économie. Michel Kretke, qu'est-ce qui distingue l'approche d'Hilferding de celle d'un de ses collègues, en l'occurrence Bauer? Qu'est-ce qui se fait la spécificité de l'approche économique d'Hilferding?
Alors, Hilferding se concentre sur les phénomènes de la concurrence. Il suit un programme qu'il a déjà formulé dans sa correspondance avec Kautsky, faire tout ce que le père Marx n'a pas réussi à faire, et en particulier une analyse plus profonde de la catégorie centrale de l'économie classique, c'est la concurrence. Alors, il étudie avec un focus sur les phénomènes de la finance, des marchés financiers, les processus de la concurrence et des changements des régimes d'accumulation, changements des formes d'entreprise. Toutes ces choses-là se trouvent déjà dans quelques formes dans les analyses de Marx, surtout dans les manuscrits inédits à l'époque que Hilferding n'a pas connu. Il a demandé à Kautsky et à autres, est-ce que vous pouvez m'envoyer, me donner accès aux manuscrits de Marx? Mais à l'époque, tout ça n'était pas encore publié. Alors aujourd'hui, on peut dire c'est exactement ce que Hilferding a fait, c'est exactement le plan, le projet que a formulé Marx beaucoup de temps avant, ce qu'il fallait faire pour développer une théorie cohérente et complète du capitalisme moderne. Ce qu'il faut ajouter, c'est que les économistes, l'austromarxisme, c'est pas seulement Hilferding, c'est surtout aussi Otto Bauer qui a fait ce que Hilferding n'a pas fait du tout. Hilferding commence par les phénomènes modernes du système monétaire et du crédit et des marchés financiers et des sociétés par action, des phénomènes de la concentration, des nouvelles formes de l'entreprise gigantesque. Mais Otto Bauer commence avec quelque chose qui est beaucoup plus traditionnellement associé avec le marxisme, c'est l'analyse des nouvelles formes de l'organisation de la production. Il est fasciné par le débat, le grand débat des années 20 sur la rationalisation, le changement des méthodes de management dans les grandes usines, surtout aux États-Unis. Et il commence par là, mais il continue avec une très grande, une des meilleures de la part des marxistes jusqu'au jour d'aujourd'hui, une grande analyse des phénomènes de la nouvelle grande crise, la seconde grande dépression qui commence en 1929 et continue longtemps dans les années 30.
On voit là, Michel Kretke, que Hilferding n'est pas seul, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. Il y a une autre chose qu'il faut mentionner, que j'ai lu dans un de vos articles et que je trouvais extrêmement importante parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, là encore une fois, avec le décalage historique. Vous dites qu'il y a beaucoup de femmes aussi au sein de ce cercle austro-marxiste et notamment des femmes qui s'occupent d'économie. Est-ce qu'elles avaient effectivement, Michel Kretke, voix au chapitre, ces femmes?
Il y avait des Polonais, il y avait la femme de Otto Bauer, Helene Bauer, qui est une économiste excellente et aussi un statisticien. Il y avait Tatiana Grigorievici, une femme qui venait de la Roumanie. Il y avait Nathalie Moskowska qui vivait en Suisse surtout, mais était aussi partie de cette école. Alors, il n'y a pas seulement des hommes, il y a Käthe Leichter qui était une pionnière de ce qu'on appelle aujourd'hui les recherches sur la situation des femmes. Elle a publié beaucoup, elle a étudié beaucoup la situation des femmes du prolétariat, et pas seulement dans les usines, mais aussi de travail domicile à la maison. Alors, il y a beaucoup de gens qui font partie de cette cercle. Il y a, et je pense que Jean Numa a déjà parlé de ça, il y a des recherches pionnières et très innovateurs, et pas seulement dans le cadre du marxisme. Il y a la contribution du jeune Otto Bauer en ce qui concerne l'analyse des phénomènes des nations et du nationalisme moderne. C'est un classique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a l'analyse de Karl Renner sur le développement du système de loi et de droit. Ce qui est aussi un travail pionnier dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie du droit. Et il y en a d'autres. Oui. Max Adler est un pionnier aussi sur le plan de la philosophie, et il essaie de formuler une nouvelle méthodologie pour le marxisme, très critique de l'orthodoxie du temps.
Et effectivement, Michel Kretke, tous et toutes, de fait, sont nombreux, et tous et toutes développent une certaine vision à la fois théorique, intellectuelle. Jean Numa Ducamp, je vous dites dans un de vos articles qu'avant 1914, les austro-marxistes se repèrent facilement autour de quelques notions ou des ouvrages clés de plusieurs figures intellectuelles qu'on vient d'évoquer largement, notamment grâce à Michel Kretke. Tous évoluaient alors, dites-vous, dans les cercles du Parti social-démocrate et étaient dans l'opposition au pouvoir. Est-ce qu'il faut comprendre, Jean Numa Ducamp, que ces individus sont pour autant ostracisés? Est-ce que ce sont des marginaux d'un point de vue politique?
Alors, oui, au départ, la social-démocratie autrichienne, comme d'ailleurs la social-démocratie allemande et la plupart des socialistes en Europe d'ailleurs à ce moment-là, avant 1914, sont des gens qui évoluent dans l'opposition. Alors, une opposition qui a un caractère un peu particulier, parce que le Parti social-démocrate ne cesse de gagner des voix. À l'échelle locale, il pèse déjà beaucoup. Mais assurément, oui, si on raisonne à l'échelle des grandes forces politiques avant la Première Guerre, ce sont des marginaux. Par contre, ça va changer du tout au tout, puisqu'il a déjà été question avec Michael Kretke des années 1920. Il y a un phénomène absolument exceptionnel dans l'histoire de la social-démocratie, qui est que Vienne, la ville dont on a tant parlé, donc chère au cœur de Stefan Zweig, même s'il préférait la Vienne d'avant 14 que celle de 1920, vu comment ça va se terminer, si j'ose dire, mais en 1920, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, les sociaux-démocrates autrichiens vont gagner ce qu'on appellerait, nous, en français, les élections municipales. Alors, en fait, Vienne est un petit état dans l'état pour des raisons administratives dont je vous fais grâce, mais les sociaux-démocrates vont avoir le pouvoir dans ce qui est une des plus grandes métropoles de l'Europe de l'Ouest, et vont à ce moment-là, effectivement, gagner en puissance, en influence. Ils vont eux-mêmes, comment dirais-je, procéder à une expérience sociale en faisant une redistribution des richesses grâce à un impôt sur les plus riches, etc., à l'échelle de la ville de Vienne. Donc on va passer d'un groupe d'économistes, effectivement, de philosophes, d'intellectuels d'opposition, à des gens qui exercent le pouvoir au niveau local, mais à un local qui a une grande importance, puisque c'est une immense ville.
Et Vienne devient une sorte de laboratoire à ciel ouvert, en tout cas le terrain d'une expérimentation, oui. vous l'avez dit, une expérimentation, enfin, que racontait la fille de Karl Polanyi, Carrie Polanyi-Levitt, en 2020.
Nous vivions dans le second district de Vienne, dans une magnifique maison qui avait vue sur la crèche dans laquelle se rendait toute la ville de Vienne. Donc c'était un environnement très vert. Et on m'a laissé entendre que c'est moi qui ai introduit mes parents aux organisations socialistes viennoises. En l'occurrence, des organisations culturelles liées à l'éducation des enfants. Mes parents sont venus à admirer profondément l'administration socialiste connue sous le nom de Vienne la Rouge, qui était alors très connue pour ses admirables logements sociaux. Ce sont surtout les derniers jours de cette Vienne rouge qui ont marqué le reste de ma vie. Je garde un souvenir très vif de la brève guerre civile qui a pris fin en 1934. Pendant environ 3 jours, il n'y avait plus d'électricité. C'était la grève générale. Lorsque l'électricité est revenue un jeudi après avoir été coupée le lundi, ma grand-mère était absolument ravie. Mais moi, je savais que c'était une mauvaise nouvelle. Cela voulait dire que notre camp avait perdu et que c'était en réalité une défaite. La défaite des syndicats et de l'administration socialiste.
Jean-Numa Ducamp, j'en ai là le début et la fin de cette fameuse Vienne rouge, mais c'est cette Vienne rouge qui permet à l'austro-marxisme de prendre une nouvelle consistance aussi, on le disait notamment grâce à ses expérimentations. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de triomphe aussi pour eux d'un point de vue politique ?
Oui, c'est un triomphe, d'autant qu'ils seront réélus sans discontinuer jusqu'en 1934. Tout le monde ne peut pas s'enorgueillir dans l'histoire du Parti social-démocrate de telles victoires. Et il y aura d'ailleurs une postérité hein, de tout ça, parce qu'après 1945, ce sera en grande partie le cas aussi à Vienne. Mais oui, il faut savoir, on a un peu perdu de vue cette question-là, parce qu'évidemment, après 1917, il y a la question du modèle bolchevique, Moscou, etc. Mais du côté des sociaux-démocrates, et ils étaient encore très nombreux, bien sûr, en Europe occidentale à ce moment-là, et très puissants, une des grandes expérimentations qui vaut par exemple l'intérêt de Léon Blum, hein, beaucoup d'ailleurs d'Autrichiens seront en exil en France après 34 et auront des contacts avec Léon Blum. Donc beaucoup de socialistes français regardent vers Vienne-la-Rouge parce qu'effectivement, comme vient de le rappeler donc, ce témoignage de la fille de Polanyi, ce sont un peu eux qui ont quand même inventé les logements sociaux. Alors évidemment, pas tout à fait selon les mêmes modalités que celles qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est eux qui ont construit massivement, grâce à une série d'impôts, des logements pour les ouvriers, des logements salubres, que aujourd'hui ça nous paraît banal, mais à l'époque c'était exceptionnel, avec des noms d'ailleurs emblématiques. On voit que c'était très marqué encore par l'idéologie, parce qu'il y avait donc les logements Karl Marx, les logements Jean Jaurès. On était très fiers de dire que c'est la ville socialiste qui permet d'avoir des jardins pour les ouvriers, des crèches, etc. Et donc, la réalisation concrète, effectivement, de l'austro-marxisme, à une époque où notre ami Hilferding est lui parti en Allemagne, hein, et qui va devenir un homme plus de Weimar que de l'Autriche, mais il est clair que tout ce qui a été prospère intellectuellement depuis 1904-1905 du côté de l'austro-marxisme eh bien, trouve une sorte de débouché politique en 1919-1920. Et comme entre-temps, il y a quand même eu évidemment cette abominable Première Guerre mondiale, l'enthousiasme est d'autant plus fort qu'on sort d'une période terrible, une période de défaite évidemment pour l'Autriche. Mmh. On est désormais dans un tout petit pays, puisque l'Autriche s'est réduite en gros à la taille d'aujourd'hui. Mais il y a cet espoir immense que cette métropole gigantesque qu'est Vienne est désormais dirigée par des socialistes, qui plus est, mène une expérience incroyable. Hein. Pour juste vous donner une idée de comparaison, vous avez des éditoriaux du grand journal social-démocrate, l'Arbeiterzeitung, le journal des travailleurs, qui dit, bon, en gros, il y a eu la commune de Paris en France, 1871, bon, tout c'était bien sympathique, ça a duré quelques semaines, ils se sont fait écraser, mais nous, Autrichiens, ça y est, nous avons réussi à finalement faire ce que les communards rêvaient, c'est-à-dire diriger une grande capitale, mais aller jusqu'au bout. Et effectivement, ils avaient de quoi s'enorgueillir d'un certain bilan à ce moment-là.
Alors, vous l'avez dit, Jean-Numa Ducamp, pendant ces années fastes, finalement, pour l'austro-marxisme, Hilferding n'est pas forcément sur place, puisque dès 1920, il se rend en Allemagne. Alors, comment comprendre qu'un Autrichien se retrouve, de fait, en Allemagne, et surtout à ce niveau de responsabilité-là, à ce niveau aussi d'expertise économique ? On en parle dans quelques instants.
Thank you.
Vous êtes bien sûr France Culture, à l'écoute de la 10e symphonie de Gustave Mahler de 1910, soit l'année où Rudolf Hilferding, dont nous dressons aujourd'hui le portrait dans Entendez-vous l'écho, publie ce qui est resté dans les mémoires comme son œuvre la plus célèbre, Le Capital financier. Capital financier qui a beaucoup marqué, mais non seulement la postérité, mais surtout ses contemporains. C'est ce qu'on comprend lorsque l'on écoute Jean Jaurès.
Par-dessus les frontières des races et par-dessus les frontières des douanes travaillent les grandes coopérations du capitalisme industriel et financier et les banques. Les grandes banques s'installent derrière les entreprises. Elles les commanditent, elles les subventionnent et en les commanditant, en les subventionnant, elles les coordonnent. Ce que je vous dis là, c'est le résumé affaibli des doctrines par nous formulées. C'est le résumé affaibli de l'œuvre magistrale que publiait, il y a quelques mois, un disciple de Marx, Hilferding, dans une œuvre de premier ordre sur le capital et la finance. Il y a là une puissance nouvelle formidable qui, si elle n'est pas contrôlée par l'opinion, si elle n'est pas contrôlée par des gouvernements indépendants d'elle, si elle n'est pas contrôlée par des démocraties éclairées et autonomes, peut prostituer des prétextes de paix à des combinaisons misérables, mais qui, si elle est éclairée, contrôlée, surveillée par des grandes nations indépendantes et fières, peut ajouter, à certaines heures, dans l'équilibre instable du monde, aux chances de la paix.
Jean Jaurès qui rend un hommage marqué, appuyé à Rudolf Hilferding devant la Chambre des députés le 20 décembre 1911. Jean-Numa Ducange, la question se pose, comment expliquer la circulation des idées d'Hilferding au point que Jean Jaurès lise, comprenne et puis reprenne à son tour la responsabilité de répandre la bonne parole d'Hilferding.
Oui, alors bon, d'abord, Jean Jaurès est un normalien agrégé de philosophie et, comme tout un normalien agrégé de philosophie de l'époque, lit pas très bien l'allemand, ce qui facilite déjà, puisque Hilferding n'est pas traduit. Et Jean Jaurès, on le sait parce qu'on a accès à ce qui lui reste de sa bibliothèque, se procurait les volumes qui paraissaient en Allemagne de théorie marxiste. Bon, c'est un homme politique de premier plan, il est très pris par ses activités en France. D'ailleurs, il a le temps de parler d'Hilferding dans un discours à l'Assemblée nationale, ce qui montre bien qu'il le place où il peut, si je puis dire. Mais effectivement, il se procure les volumes, les principaux volumes, pourrions-nous dire, de la théorie marxiste de l'époque. Et Hilferding ne laisse pas indifférent, je dirais pour plusieurs raisons, mais au moins pour deux choses. D'abord, ça a été dit dans la citation que l'on vient d'entendre, ce sont ce qu'on dit aujourd'hui, il y a des bruits de bottes, si vous voulez, en Europe. Il y a un risque de conflagration nouvelle entre la France et l'Allemagne, entre autres. Et donc, il faut, parce que Jaurès n'est pas marxiste comme le sont les austro-marxistes, mais Jaurès est, disons, marxisant, il faut comprendre ce qui se passe au sein des équilibres politiques et économiques des grandes puissances. Et donc, il reçoit Hilferding, dont on peut supposer qu'il n'a pas lu tout d'un coup, parce que c'est quand même un ouvrage très dense. Mais il voit bien qu'Hilferding, notamment dans ses chapitres les plus saillants, pose la question du devenir de la paix sur le continent au regard de l'évolution du capitalisme. Et il y a alors un mot qui va faire ensuite Flores, qui avait un mot qui n'avait pas beaucoup de signification au XIXe siècle, mais qui avait une signification, disons, descriptive, qui est la question de l'impérialisme. C'est-à-dire l'idée selon laquelle le capitalisme est arrivé à un stade nouveau, et que ce stade nouveau implique notamment pour les grandes puissances industrielles d'exporter leurs capitaux là où il reste de la place, et je le dis de manière un peu rapide, mais que cette exportation de capitaux passe par de nouveaux territoires, donc normalement aussi par le phénomène colonial. Et donc la France est le deuxième grand empire colonial du monde. Jaurès accorde une importance particulière à toutes ces questions-là. Et donc il voit en Hilferding un des hommes qui permet de comprendre à la fois ce qui a été dit, le capital bancaire, le capital financier, mais aussi cette nouvelle phase du capitalisme qui est devant lui. Et il y voit peut-être un moyen de construire une théorie pour défendre, entre guillemets, une perspective pacifiste sur le continent européen à ce moment-là.
Michel Kretke, on le comprend, il y a un contexte politique, une tension aussi qui explique la tension de Jaurès portée à Hilferding. Si on en revient au fond, si on en revient à ce que raconte aussi l'ouvrage d'Hilferding en 1910, d'un point de vue de la théorie économique, il y a cette question de l'impérialisme, il y a aussi la question de la financiarisation de l'économie. Là encore, Michel Kretke, on peut dire que Hilferding cherche à aller plus loin que Marx. Il veut aller plus loin dans l'analyse. Là où Marx n'avait pas forcément vu, on va dire, l'enjeu de la financiarisation des capitaux, Hilferding, lui, met l'accent dessus.
Oui, c'est tout à fait correct. Et il analyse la connexion entre les phénomènes. Le capitalisme financier a pour conséquence une accélération de l'expansion du capitalisme, si on veut, global. Alors, il anticipe dans un certain sens l'idée de la mondialisation du capitalisme, et l'impérialisme est seulement une des formes possibles de l'expansion globale du capitalisme comme système. Ce qui, Jean Jaurès a très bien vu, il y a aussi un élément dans cette analyse du capitalisme moderne qui est important pour tous les socialistes, l'idée qui existe dans les œuvres, dans les écrits de Marx, l'idée que le capitalisme va accélérer et produire une tendance vers la socialisation et vers le contrôle de toutes les forces productives d'une société, d'une nation et même d'un continent. Et pour Hilferding, cette force qui accélère cette tendance vers la socialisation, c'est le capital financier. C'est pourquoi il y a une conséquence très intéressante pour les socialistes. Alors, le socialisme va être beaucoup plus facile, il va devenir plus facile de construire une économie socialiste parce que le capital financier déjà pousse dans cette direction. Un peu plus tard, aussi sous l'impact des expériences de l'économie de guerre pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'idée du capitalisme organisé que Hilferding a formulé, qu'il partage avec Otto Bauer, une idée que le capitalisme devient de moins en moins anarchique et de plus en plus organisé. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de possibilités possibilités pour une politique socialiste dans les pays avancés du capitalisme moderne. Et du moment que les austro-marxistes, qui étaient les pères fondateurs de la première république en Autriche et qui étaient dans une position absolument dominante dans cette grande ville de Vienne, une ville de plus de 2 millions d'habitants, il essaye de faire quelque chose dans cette direction.
Michel Crête, ce qu'on comprend avec cette idée d'un capitalisme de plus en plus organisé, de plus en plus financiarisé, mais aussi de fait de plus en plus concentré vers des effets de monopole et de cartel, c'est aussi que Hilferding pose la question de tout simplement de la place de l'État. Comment il conçoit cette place-là de l'État dans ce contexte de cette évolution du capitalisme qu'il observe?
Il le voit et il fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence, ce qui n'existait pas à l'époque, mais d'abord dans la Première République autrichienne, mais aussi dans la République de Weimar, on voit une grande poussée vers l'État social, l'État de providence avec nouvelles lois. Et l'idée de la démocratie économique est formulée, entre autres, par Hilferding sur la base de ces nouvelles expériences. La classe ouvrière, ça c'est sa position politique assez claire, a dans la République, dans le cadre d'une démocratie politique, une influence énorme, élargie sur ce que fait l'État, et il faut l'utiliser. Et c'est pourquoi il entre, comme les austro-marxistes en Autriche, les social-démocrates en Allemagne, il entre dans des gouvernements de coalition. Hilferding était deux fois ministre de Finances.
C'est très important de le préciser, Michel Kretke, et c'est vrai que ça peut surprendre. On le disait que Hilferding, on le retrouve à ce poste de ministre des Finances en Allemagne. Comment on explique qu'il ait trouvé ce poste-là et comment on explique que ses compétences économiques étaient à ce point reconnues?
Oh, il était très reconnu, et surtout parce qu'il était un des journalistes de première importance en Allemagne. Il était rédacteur en chef du plus grand journal de la social-démocratie allemande. Il continuait aussi de contribuer aux journaux et revues en Autriche, mais il était très connu, il avait des connexions, c'était un vrai, ce qu'on appelle en anglais, un network, quelqu'un qui avait des capacités de créer des liens avec aussi des adversaires politiques. Alors, il a coopéré avec les démocrates bourgeois. Ce qui était quelque chose complètement nouveau dans la première république allemande, il y en avait des partis politiques démocratiques de droite, ce qui manquait complètement en Autriche. Alors la situation politique est complètement différente et c'est pourquoi ces gouvernements de coalition n'ont pas duré longtemps, surtout pas en Autriche.
Et vous l'avez dit, Michel Kretke, Hilferding est un homme de lien, de connexion aussi, quitte à savoir dialoguer aussi avec des ennemis intellectuels ou politiques, tout simplement. On a déjà cité le fait que Jean Jaurès lui avait rendu hommage. Il y a un autre personnage politique très important qui affirme, qui soutient aussi une forme de reconnaissance vis-à-vis de Hilferding. Cet homme, c'est Lénine, qui, dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, en 1916, mentionnait Hilferding.
Dans ces 15 ou 20 dernières années, surtout depuis les guerres hispano-américaines et anglo-boer, la littérature économique et aussi politique de l'ancien et du nouveau monde s'arrête de plus en plus fréquemment à la notion d'impérialisme pour caractériser l'époque où nous vivons. En 1902, l'économiste anglais Hobson a publié à Londres et à New York un ouvrage intitulé « L'impérialisme ». Tout en professant un point de vue social réformiste, bourgeois et pacifiste, identique quant au fond à la position actuelle de l'ex-marxiste Kautsky, l'auteur y a donné une description excellente et détaillée des principaux caractères économiques et politiques de l'impérialisme. En 1910, parut à Vienne un ouvrage du marxiste autrichien Rudolf Hilferding, « Le capitalisme financier ». Malgré une erreur de l'auteur dans la théorie de l'argent et une certaine tendance à concilier le marxisme et l'opportunisme, cet ouvrage constitue une analyse théorique éminemment précieuse de la phase la plus récente du développement du capitalisme, comme l'indique le sous-titre du livre d'Hilferding. Au fond, ce qu'on a dit de l'impérialisme pendant ces dernières années, notamment dans d'innombrables articles de journaux et de revues, ainsi que dans des résolutions, par exemple, des congrès du Chemnitz et de Bâle en automne 1912, n'est guère sorti du cercle des idées exposées ou, plus exactement, résumées par les deux auteurs précités.
Jean-Numa Ducange, nous l'avons dit, Jaurès en 1911, Lénine en 1916, c'est une forme de reconnaissance. Alors les événements vont se bousculer pour Hilferding, l'arrivée au pouvoir d'Hitler le contraint à quitter l'Allemagne et à se réfugier en Suisse, puis en France en 1938. Il tente de rejoindre les États-Unis mais est arrêté en cours de route à Marseille et il meurt de fait dans la prison de la Santé en 1941. Aujourd'hui, que reste-t-il de la pensée d'Hilferding et que reste-t-il plus largement de celle de l'austro-marxisme ?
Il y a un paradoxe, on pourrait se dire que malheureusement l'histoire a montré que leur optimisme à Vienne-la-Rouge des années 1920 n'a pas survécu à un certain nombre d'événements en 1933-1934. Et probablement, Hilferding le premier, ils ont sous-estimé l'importance de l'arrivée d'Hitler au pouvoir sur le moment. Il fait partie des gens qui considèrent que tout ça n'est qu'un épiphénomène et que, d'une certaine manière, l'histoire va reprendre ses droits. Erreur tragique, mais en même temps, ce qu'ont avancé certains austro-marxistes, c'était l'idée que finalement le marxisme était analytiquement juste à condition de le renouveler pour comprendre le capitalisme contemporain. On ne peut pas se contenter d'annoncer un certain nombre de principes marxistes, comme dans les années 1880, mais on peut prendre les outils analytiques pour les renouveler au début du XXe, chose que l'on pourrait appliquer aux décennies suivantes jusqu'à nos jours, pourquoi pas. Et en même temps, sur un point de vue politique, il considère effectivement que la question de l'État avec un grand E est une question complexe et que l'État n'est pas le simple représentant d'une classe sociale, la bourgeoisie purement et simplement, mais qu'à partir du moment où il existe un État social, que l'État a changé ses formes, eh bien, il faut en tenir compte et redéfinir une perspective politique par rapport à cela. C'est ce qu'il y a de commun finalement entre des gens comme Hilferding et Jaurès, sachant que Lénine, qu'on vient d'entendre, évidemment, sur une toute autre perspective de relation radicale.
Et ce sera l'héritage aussi de cette émission, et de plus qu'on a réussi à comprendre grâce à elle l'essentiel de la la pensée de Rudolf Hilferding. Un grand merci à tous les deux, Michel Kretke et Jean-Numa Ducange, d'avoir participé à cette émission.